à tous, bonjour à toutes. Une émission spéciale cet après-midi dans les studios de Radio Royan Vercors. J'ai le plaisir de recevoir les jeunes d'Active Royan avec leur animatrice Maëlle. Salut Maëlle.
Salut.
Et donc autour de la table, eh bien, il y a Sybille. Bonjour Sybille.
Bonjour.
Il y a aussi Zélie. Bonjour Zélie.
Bonjour.
Il y a Maxime.
Bonjour.
Et Léandre.
Bonjour.
Bonjour à tous les quatre et à Maëlle aussi, donc tous les cinq. Et exceptionnellement, c'est pas Gaëlle qui a la technique, mais c'est Chico qui s'essaye cet après-midi sur la technique. Merci Chico d'être
Merci
avec nous.
Chico.
Et dans le cadre du Printemps Mortel, on avait envie de donner la parole aux jeunes. Parce qu'on parle de la mort depuis deux mois, depuis le mois d'avril. On parle de la mort sous toutes ses formes. Il y a eu des spectacles, il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers avec Thanatosphère. Il y a eu pas mal de choses. Et la radio, c'est aussi l'occasion de donner la parole à plein de publics différents. Et cet après-midi, c'est à vous, les jeunes. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, donc il va y avoir pas mal de choses dans cette émission. Il va y avoir des chroniques culturelles, il va y avoir des pastilles de micro-trottoirs, il va y avoir de la musique et il va y avoir aussi des témoignages. Et pour commencer, je vous propose qu'on s'écoute un petit bout du micro-trottoir qu'on a réalisé ensemble. Donc il y avait Maëlle, il y avait Zélie, il y avait aussi Isia qui est pas là cet après-midi et Sam. Et on s'est retrouvés un mercredi après-midi du mois de mai pour aller questionner les gens de Saint-Jean-en-Royans, les gens qui étaient là dans l'après-midi, soit au terrain de pétanque, soit à la terrasse du bistrot ou du people. Et on leur a posé des questions sur la mort. Donc on va écouter la première partie du micro-trottoir et puis après je vous poserai un peu des questions, voir qu'est-ce que ça vous a fait d'aller demander tout ça aux gens. Allez, on écoute.
On travaille sur le printemps mortel et du coup on demande à des gens d'expliquer pour eux qu'est-ce que c'est la mort.
La mort, la mort, je pense que c'est l'aboutissement d'une vie. Ou alors des fois, on ne la choisit pas, ça peut venir rapidement. Mais de toute façon, on n'y peut rien. Voilà, on n'y peut rien là-dessus. Et donc, après la mort, seront malheureux ceux qui nous ont connus ou qui nous ont appréciés. Voilà. Nous, je pense que plus rien n'existe après la mort, à part le côté spirituel, pour ceux qui sont bien axés là-dessus.
Est-ce que vous, ça vous fait peur, la mort ?
Pas du tout. Non, puis j'y pense pas. Donc ça peut pas me faire peur à partir du moment où j'y pense pas. Je suis conscient, mais bon, voilà, c'est une fatalité qui fait que la vie, elle est comme ça. Hein. La vie, comme on dit, la mort fait partie de la vie. Voilà, ça te va comme réponse ? Voilà.
Oh, hein. Grosse question ça. Signifie la mort. À la fin, tout simplement. Je sais pas ce qu'il y a derrière, donc on verra. Pour l'instant, je sais pas.
Est-ce que vous avez eu des animaux qui sont décédés ou
Oui, un chat et un chien. La petite chienne s'appelait Nuki, le chat s'appelait Brillant.
Et comment est-ce qu'ils sont morts ?
Leur belle mort, tout simplement.
Est-ce que tu as des animaux de compagnie ?
Oui, j'avais eu un lapin, il est mort d'une crise cardiaque un soir où il y avait des éclairs.
Qu'est-ce que tu as ressenti ?
J'ai ressenti un peu de tristesse parce que c'était mon lapin préféré, quoi. C'était mon petit chouchou. Et j'avais deux oies aussi. Et elles sont toutes les deux mortes, une d'une maladie et l'autre de tristesse parce qu'elle était toute seule. Et moi, après, j'étais quand même un peu triste, quoi, parce que j'avais jamais eu d'oies, j'en voulais trop, et elles sont mortes quand elles étaient toutes petites.
Et il y avait une histoire de poule, tu m'as raconté une histoire de poule, et ta famille t'a fait des blagues pas très sympas.
Oui, exactement. Un jour, je vais voir mes poules, et il n'y en a plus. Du coup, on cherche un peu, et on voit qu'elle a été décapitée par une fouine, un renard, un truc dans le genre, on ne sait pas trop. Et le soir même, ils se sont dit, c'est une bonne idée de manger du poulet. Et ils m'ont fait des blagues pas très marrantes sur ça. Et moi, ça m'a mis un peu triste, quoi. Mais pour eux, c'était drôle. Mais pour moi, c'est pas très drôle, quoi.
Actuellement, j'ai deux chats. Mais avant, j'en avais deux autres. Y en a un qui est mort. Et l'autre, il s'est fait taper par une voiture. Et du coup, il n'avait plus l'utilisation de ses deux pattes arrière. On a dû le faire piquer parce qu'elle souffrait trop. Voilà, c'est triste. Bah, j'étais triste. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire à mes 4 ans. Elle est morte quand j'en avais 11. Donc, moi, j'avais vécu ma vie avec elle. Enfin, tous mes souvenirs, ils étaient avec elle. Du coup, c'était triste.
Je sais pas. La mort, c'est quand tu meurs.
Est-ce que vous avez eu des animaux qui sont décédés ?
Oui. Un chat. Il s'appelait Kitty. Il s'est fait écraser. On l'a amené chez le vétérinaire et après, il l'a gardé.
Pour toi, que signifie la mort ?
C'est quand quelqu'un part. Enfin, il part dans le ciel. Et voilà. Genre, on le voit plus.
Et est-ce que tu as peur de la mort ?
Non, moi, j'ai peur de rien.
Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, que signifie la mort ?
La fin de la vie.
Et rien d'autre de particulier ?
Est-ce que c'est particulier ? Bah, je pense que c'est très banal. La mort, c'est tout le temps, c'est partout. C'est dans la salle de bain, les petits poils qui traînent par terre, c'est nos cheveux morts. Dans la poussière, je crois qu'il y a 40% dans la poussière, 40% de la poussière, c'est des corps, des bouts morts, quoi. Genre nos bouts de peau, les insectes morts et tout. En fait, la mort, elle est partout. Et du coup, elle n'est pas si particulière, je dirais. Elle est normale.
Est-ce que vous avez eu des animaux de compagnie qui sont décédés ?
Ouais. Alors, c'était pas très original, mais il s'appelait Minou. C'était un chat. Et j'avais quelque chose comme, je pense, 11 ans. Et je me souviens, en fait, le midi, je rentrais manger chez moi. J'étais au collège. Je rentrais manger à la maison. Et le soir, en fait, il était très malade. Et mon père allait l'emmener chez le véto pour le faire piquer, pour qu'il meure. Et je me suis dit, mais en fait, là, ce midi, c'est le dernier câlin que je lui fais. Et quand je vais rentrer ce soir, il va être mort. Et du coup, je suis arrivée en retard au cours de français et je suis rentrée dans la salle et j'ai fondu en pleurs. Et du coup, la prof qui était chouette, elle a demandé s'il y avait une de mes copines qui pouvait sortir pour venir me voir. Et donc, ouais, mon chat est mort. Voilà.
Votre prof, elle devait être très gentille, hein ?
Bah, elle était, ouais, compréhensive, on dira. Des fois, elle était un peu stricte, mais sinon, elle était compréhensive.
Ou sinon, est-ce que vous avez peur de la mort ?
Ouais. De ouf. J'ai hyper peur de mourir. J'ai vraiment pas envie de mourir. C'est pas du tout dans les plans. Genre, moi, j'ai prévu de vivre très longtemps. Et j'ai peur de ma mort. J'ai peur de la mort de mes proches aussi. Franchement, ça va pas être fun. Enfin, il y a un truc où le jour où ma grand-mère va mourir, ça va être un peu normal parce que c'est mes grands-parents. Mais je me dis que le jour où mes parents vont mourir, ça va être plus dur. Ou des amis qui ont mon âge, quoi. C'est un peu... Ouais, j'ai peur.
Alors voilà pour cette première partie du micro-trottoir. Zélie, moi j'ai une question pour toi, puisque tu as participé à ce micro-trottoir. Comment c'était de poser des questions aux gens dans la rue et surtout des questions sur la mort ? Qu'est-ce que ça t'a fait ?
Bah, au départ c'était un peu bizarre, j'avais un peu du mal à aborder le sujet avec les gens, mais plus on posait des questions, plus on s'habitue à réagir surtout, à poser d'autres questions, sur, on réagit directement quoi.
Et tu avais aussi vachement envie qu'on retourne au local jeune, à Active Royan, pour poser des questions à tes camarades de ton âge. Est-ce que tu avais l'impression que les réponses allaient être différentes ?
Oui, parce que on posait des questions à des gens plus matures, et là, comme on posait des questions à des gens beaucoup, beaucoup moins matures, bah, leurs réponses étaient beaucoup plus différentes, quoi.
Ok. Et les autres, Sybille, Maxime, Léandre, même Maëlle, qui découvraient ce micro-trottoir, il y en aura d'autres parties dans l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, par exemple, dans ce qu'on vient d'écouter ? Vas-y, Léandre.
Bah, je pensais que tout le monde allait dire que ça faisait peur, mais et là, ils n'ont pas peur de la mort.
Ouais. Est-ce que toi, t'as peur de la mort ?
Bof. Après, je sais que quand je vais perdre les gens chers à ma famille, comme ma mamie, je pense que tout le monde va être triste parce qu'elle a 7 enfants et 26 petits-enfants.
Ouh là là, grande famille.
Oui.
Et là, tu penses que ça va être triste pour toute la famille ?
Oui, je pense que ça va être dur.
Il y a d'autres choses qui t'ont surprise dans ce qu'on vient d'entendre ?
Non.
Ouais. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah moi j'étais d'accord avec celui qui faisait de la pétanque. Comme quoi ça faisait pas peur la mort. Ça fait partie de la vie.
Toi t'es d'accord avec ça?
Oui voilà. Okay. Et je suis aussi d'accord que c'est triste pour les proches ou des trucs comme ça.
Ouais. Toi ça t'est déjà arrivé de perdre quelqu'un de proche?
Oui. Mon papy.
Ton papy, t'as été triste?
J'étais tout petit alors je le connaissais presque pas. Donc pas beaucoup.
Ça dépend peut-être aussi de l'âge qu'on a effectivement. Et toi, Sybille, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier?
Bah moi, ce qui m'a surprise, c'est surtout, enfin, c'est comme Léandre, c'est qu'il y a qu'une personne, par exemple, qu'on a interrogée pour l'instant, qui a dit qu'il avait peur de la mort. Et du coup, voilà, c'est juste ça.
Tu t'attendais à ce qu'il y ait plus de monde qui dise qu'ils ont peur de la mort?
Oui.
Ouais. Parce que toi, t'as peur de la mort?
Bah un peu, oui.
Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Tu veux nous dire?
Bah non, c'est surtout en fait, c'est ma mort, mais c'est surtout la mort des autres. Enfin, c'est voilà.
T'as peur que d'être trop triste quand les autres autour de toi, ceux que t'aimes, vont mourir, c'est ça?
C'est ça.
Ok. Vous allez voir, il va y avoir encore d'autres réponses dans le micro-trottoir, dans les autres bouts qu'on va écouter. Toi, Maëlle, t'as une réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter?
Bah, y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Après, je pense que... Je sais plus, il y a un monsieur qui a dit une phrase que je trouvais assez intéressante. Je crois que c'était sur son chat ou son chien, qu'il est mort... D'une belle manière ou quelque chose comme ça, quoi. Je pense que ça voulait sous-entendre la vieillesse. Et je pense que c'est plus ça. Je pense que peut-être qu'on n'a pas tant peur de la mort. Peut-être qu'en fait, ce qui fait presque plus peur, c'est la maladie. Enfin, les choses qui sont plus dures à accepter. Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, vit jusqu'à très très vieux, on se dit, bon, bah voilà, il a eu une belle vie, il a bien vécu. Voilà. Ce qui est dur, c'est un peu l'injustice qu'il peut y avoir là-dedans, je pense.
Dans le cas où il y a des morts brutales ou avec beaucoup de souffrance, peut-être.
Voilà, je pense que c'est plus ça qui est dur à vivre. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, c'est mon avis.
Ok, merci pour ce premier tour. On va continuer avec toi, Zélie. Tu nous as préparé une petite chronique culture. De quoi s'agit-il?
Il s'agit de musique de plusieurs rappeurs et chanteurs décédés. Par exemple, je cite quelques noms, genre XXXTentacion, Roy Renoir, Grégory Lemarchal, et j'ai décidé de passer des extraits de leur musique.
Ok. Alors, de qui t'as envie de nous parler en premier?
Bah, j'aimerais bien vous parler de Roy Renoir, qui est décédé à l'âge de 31 ans il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 17 mai de cette année. Il est mort d'une défaillance cardiaque un matin.
Et donc c'est un chanteur français, il était né en 94 à Melun et il était originaire de Montreuil et en mai 2023 il a été sacré révélation masculine de l'année quand même. Donc c'était quand même, il était connu. Est-ce que vous l'écoutez au collège? C'était quelqu'un, vous l'écoutiez toujours peut-être?
Bah oui, moi je l'écoutais souvent, après je sais pas si les autres ils l'écoutaient mais moi c'était un rappeur que j'écoutais quand même souvent.
Ouais, et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris sa mort alors?
Bah, j'étais triste pour lui parce qu'il était quand même jeune. J'aurais pu tellement faire d'autres musiques, gagner des prix, faire des concerts, mais il a pas pu.
Ouais. Alors effectivement, c'est ça, comme je disais, il a été nommé Révélation Masculine de l'année, et puis après, il a eu la récompense de l'album rap de l'année en 2024, donc juste avant sa mort, un an avant sa mort, à la cérémonie des Flammes. Et effectivement, il est mort d'une défaillance cardiaque. Toi, tu l'as appris, tu te rappelles, où est-ce que tu étais quand tu l'as appris?
Oui, j'étais allée à la Japan avec la Active Royan. Je rentre et mon frère il me dit « Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle », et je fais « Bah quoi ?» Et il me fait « Bah, Yawa Renoir, un des rappeurs, bah, il est mort. » Et du coup, bah, moi, j'étais dégoûtée, je venais de rentrer. Bah, c'est une super journée, il a fallu que ça vienne.
Alors juste, on précise, la Japan, c'est quoi, tu peux nous dire?
Bah, la Japan Touch, c'était à Lyon, c'est une grande exposition avec plein d'exposants qui vendent des trucs du Japon, des figurines, des mangas, plein de trucs originaires du Japon.
Et c'était une chouette journée qui s'est terminée par cette annonce.
Ouais.
Dur. Et les autres, vous connaissez bien ce rappeur?
Oui, moi j'écoutais en boucle. J'adorais ses musiques.
Ouais, t'adores toujours?
Oui.
Ouais.
Bah, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais j'aime bien sinon...
Maxime, tu voulais dire quelque chose toi?
Bah, moi c'est un peu comme Sybille, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, mais j'adore ses musiques.
Ouais, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans son rap? Léandre?
La manière comment il écrit ses textes, comment il s'exprime.
Comment il s'exprime dans ses textes?
Oui, avec l'émotion qu'il met et la volonté.
Ouais, comment ses textes lui permettent de...
Faire passer un message,
super. Zélie, qu'est-ce que t'as choisi comme chanson de ce rappeur à nous faire découvrir?
Moi, personnellement, j'ai pris une de mes chansons préférées, parce que je me suis dit, si je dois passer une de ses musiques, autant prendre une musique que j'aime bien.
Tant qu'à faire.
Ouais, tant qu'à faire. Et du coup, la chanson, elle s'appelle « Laboratoire ».
Chico, tu nous la mets? Découverte.
Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en verre comme Terminator, je les vois de loin comme les Mirador. Mise la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe, et le prix d'une montre peut coûter un bras. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en verre comme Terminator, je les vois de loin comme les Mirador. Mise la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. J'suis solide, si tu m'aimes, MMA, fort. Tu veux le feed, j'suis dans le club, tu parles trop fort. 1 million, 2 millions, j'veux 800 d'abord. J'connais le vice avant le fisc et tous les accords. J'les vois tourner tous autour de ma bite, comme un HS musical. Comme si j'fais 200 000 en vente digitale. Mon gros, même ta meuf écoute la ligue. T'as peur de la dette quand j'fais la fête. C'est toi qui passes seulement qui dit. Tu penses que c'est l'entourage, mais c'est moi qui leak. Carré, j'suis solide, si tu m'aimes, MMA, fort. Tu veux les filles, j'suis dans le club, tu parles trop fort. 1 million, 2 millions, j'veux 800 d'abord. J'connais le vice avant le fisc et tous les accords. Beaucoup de papier, pas de langue de bois. Parce que ça coûte une jambe. Des mondes veulent coûter un bras. On fait pas de faute éliminatoire. Je peux en faire comme Terminator. Je les vois de loin comme les Mirador. J'suis solide, si tu m'aimes, MMA, fort. Tu veux les filles, j'suis dans le club, tu parles trop fort. 1 million, 2 millions, j'veux 800 d'abord. J'connais le vice avant le fisc et tous les accords. Le terrain c'est pas que pour les footeurs. On voit le ballon, on fait les armes en vrai. Frappe de Marais, frappe de Gareth Bale. Ce qui vous raconte mal à douteux. Capirana dans un QU2. T'as prié Dieu pour que ça s'arrête ma gueule. D'où je viens, on mange les requins avec les arêtes. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Les cœurs en verre comme Terminator. Je les vois de loin comme les Mirador. Mais ta taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras.
Voilà, alors c'était donc Laboratoire, c'était une chanson choisie par Zélie. Donc après le décès du rappeur, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage, comme Aya Nakamura, Maître Gims, Caris, Jul ou même Pascal Obispo, parce que voilà, c'était quand même un nom dans le milieu du rap, donc peut-être qu'on peut découvrir ou redécouvrir ces chansons en allant les écouter. Et Zélie, pour continuer cette chronique sur les rappeurs, il y avait une deuxième personne dont tu avais envie de nous parler.
Oui, c'était XXXTentacion.
Zélie,
oui.
Tu vas nous dire des choses, puis nous on complète derrière si on a d'autres infos. Vas-y.
Ouais. XXXTentacion, c'était un rappeur connu en Amérique surtout. Il est mort à l'âge de 20 ans dans une fusillade. C'est quand même un peu triste son histoire et... il est mort à l'âge de 20 ans, quoi. Il était super jeune, il avait encore plein de choses à vivre, mais comme à peu près tous les autres, il est aussi mort, quoi.
Ouais, il est né en 98 en Floride, et effectivement, il a été assassiné, donc c'est ce que tu disais, hein, Léandre, en 2018, dans le même état. Et c'était surtout une figure populaire de ce qu'on appelle le rap SoundCloud des années 2010. Ça veut dire que c'est des rappeurs qui se sont surtout fait connaître sur ce type de plateforme. Est-ce que vous saviez qu'il avait été en prison? Ouais.
Oui.
Ouais. C'est là aussi, d'ailleurs, qu'il a écrit pas mal de textes, qu'il a eu du succès. Et qui devient un peu cette figure populaire. Donc c'était une personne qui était incarcérée, quoi. Donc, ben oui, voilà, c'est ça. Une fois qu'il a été incarcéré en 2017, il a publié dans la foulée son premier album studio intitulé 17, qui s'est vendu à 300 000 exemplaires et qui s'est classé au deuxième rang du Billboard 200. Donc, c'est un peu le classement comme ça qu'il y a aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson pour qu'on découvre XXXTentacion?
J'ai choisi la chanson Look at Me.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
C'est une des chansons. C'est une chanson que beaucoup de gens connaissent. C'était une de ses chansons les plus populaires. Du coup, bah, j'ai décidé de la mettre.
Eh ben, on l'écoute. Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kicked me out of life, bro. That bitch don't wanna be friends. I give her dick, she our man. She put her 10 on my dick. Look at my wrist, about 10. Just got a pound of the booth. Bought that shit straight to the booth. Tell me my health is a fool. She said one fuck, bitch, I do. You put a gun on my mask. I put a hole in your pants. I just got lean on my soomies. I got a Uzi, no Uzi. Fuck me. Look at me, ayy, fuck on me, yeah. Look at me, ayy, look at me, yeah. Fuck on me, yeah, ayy. Look at me, yeah, fuck on me. Look at me, fuck on me, yeah. Look at me, fuck on me, yeah. Ayy. Tell you fuck nigga, vote me up, pipe up. Hey, shout out Benzo now. I took a white bitch to start a bus. That little bitch got a throat. Fuck, I like to rock, but I'm misfit. My emo bitch like a wrist slit. Curly hair bitch like I'm poor. Pink, got like three bitches, I'm more. Man, skid on your man, bitch, and four. Hey, don't want your pussy, just one. Hey, look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me, yeah, hey. Look at me, fuck on me. Look at me, fuck on me. Look at me. C'est donc Look at Me de XXXTentacion. C'est comme ça qu'on dit, Zélie, hein?
Oui, XXXTentacion.
C'est toi la spécialiste. Et t'as voulu nous faire découvrir cette chanson donc, de ce rappeur qui est mort à l'âge de 20 ans. Rappeur américain. Et il y avait une troisième personne dont tu avais envie de nous parler. On change un peu de style.
Ouais, là, on change radicalement de style. Je voulais vous parler de Grégory Lemarchal. Il est mort à l'âge de 23 ans à cause d'une mucoviscidose.
Viscidose, ouais.
Ouais, c'est compliqué à dire.
La mucoviscidose, qui est une maladie génétique, ouais.
Il est mort le 20 avril 2018, si je ne me trompe pas. Et il a participé à la Star Academy. C'était, je sais pas s'il avait gagné ou pas, je me rappelle plus trop.
Alors c'était en 2004 qu'il avait participé à la Star Academy. C'est comme ça qu'il a été connu. Et à partir de là, il a enregistré son premier album studio qui s'appelle Je deviens moi. Est-ce que toi tu le connais cet album? C'est à ce moment-là où tu l'as découvert ou peut-être plus tard?
Bah, c'est mes parents. Parfois ils écoutaient une ou deux de ses chansons. Du coup, bah moi j'écoutais aussi. Et... c'est comme ça un peu que je l'ai connu.
Et du coup, il y a eu son état de santé qui s'est dégradé et il a été hospitalisé d'urgence. Et effectivement, il est mort le 29 avril. Est-ce que il y en a d'autres qui le connaissent? Toi, Sybille, tu disais que tu n'aimais pas particulièrement Grégory Lemarchal. Tu veux nous dire un peu pourquoi?
Non, mais j'aime pas juste sa voix. Je sais pas, j'aime pas trop.
T'écoutes pas particulièrement, t'es pas fan?
J'aime pas trop.
T'aimes pas trop. Et Maxime et Léandre?
Bah, moi j'ai entendu parler parce que souvent avec ma mamie on regarde les The Voice, même la Star Academy, on regarde tout le temps ça ensemble. Et souvent, même les enfoirés, ils parlent souvent de Grégory Lemarchal. Bah, quand il est mort, bah après ça m'a touché un peu parce que je l'aimais bien, moi, chanteur.
Toi tu l'aimais bien aussi. Et toi, Maxime?
Moi je le connais que de nom.
Et du coup, Zélie, toi t'avais envie de nous partager justement une de ses chansons et il me semble que c'est une qui vient justement de des enfoirés.
Je crois que oui, mais je suis pas très sûre. Ça s'appelle SOS d'un terrien en détresse.
Qui est une reprise, effectivement. Et on écoute ça bah, pour le découvrir.
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure, voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau.
Voilà, c'était la chronique musicale de Zélie. Merci Zélie pour ces trois découvertes et puis d'avoir parlé de ces rappeurs décédés. Pour continuer, je vous propose qu'on écoute la deuxième partie du micro-trottoir, notre déambulation dans les rues de Saint-Jean à la recherche de personnes qui étaient d'accord de nous parler de leur rapport à la mort.
On fait un micro-trottoir pour interroger les gens sur le sujet de la mort parce que c'est le printemps mortel.
Organisé par le centre social La Paz.
La mort, c'est la fin. C'est la fin. Ou un commencement pour d'autres, ça dépend des religions, ça dépend des croyances. Parce qu'il y a, pour certains, c'est une mort physique, pour d'autres, c'est une renaissance de l'âme. Donc, c'est à voir, quoi. Moi, personnellement, peut-être une renaissance. Mort physique et puis renaissance d'un être, on ne sait pas quoi encore, à définir.
Est-ce que vous avez déjà eu des animaux de compagnie qui sont décédés ?
Oui. Deux. Alors le premier, c'était un boxeur. Il s'appelait Néron et il est mort d'un arrêt cardiaque. Paf, comme ça, il est mort. Et puis le deuxième, il s'appelait Corky, c'est un bulldog français. Et il est décédé d'une inclusion intestinale, je pense. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'emmener chez le veto. Il est mort comme ça, tac.
Et qu'est-ce que ça vous a fait ?
De la tristesse. Mais c'est une tristesse qui est juste passagère. C'est pas comme perdre quelqu'un de cher, quoi. C'est un animal, quoi. Pour moi, en tous les cas. Hein. Ça reste qu'un animal, quoi.
Est-ce que vous avez eu des animaux qui sont décédés ou...
Oui, j'en ai eu. Et j'en ai encore des animaux vivants, pour le coup. Mais j'ai eu des pertes d'animaux, oui.
Ils s'appelaient comment ?
Alors, il y a eu Géronimo, il y a eu Monsieur le Chat, il y a eu Cheyenne, Tawashni, ça en fait, hein. Dakota. Et à chaque fois, c'était une douleur, ouais. De faire un vrai deuil à faire.
Et maintenant, il y a Pirate.
Ah ouais, mais il a envie, lui.
Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial quand ils sont morts, un enterrement ?
Oui, à chaque fois je les ai enterrés. C'est pas du tout légal, mais je les fais quand même au fin fond de mon jardin. oui, c'est vrai. Et voilà, en mettant de la chaux et tout pour pas que ça attire les charognards et tout. J'ai toujours ça fait ça bien. Et en plantant un petit arbre aussi à côté. Parce que c'est la vie, c'est la renaissance. L'animal. Enfin, le corps de l'animal peut le nourrir, ouais, ça a une symbolique, je trouve, que plutôt chouette.
Et pour vous, que signifie la mort ?
Bah, la fin de la vie. Ça fait partie de la vie, mais ça marque la fin. Après, quand on en a conscience, je pense, on profite mieux de la vie.
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort ?
J'aurais cette sensibilité-là, oui. Après, j'ai aucune conviction, donc je fais pas focus, quoi. Mais j'aime bien penser qu'il y a autre chose, ouais, que l'âme continue de vivre, ouais. Il y a un petit côté rassurant, peut-être. J'ai cette sensibilité-là, ouais. Je dirais pas croyance, parce que voilà, je suis ni bouddhiste, ni toutes ces religions qui pourraient avoir tendance à parler de réincarnation. Mais ouais, j'aurais tendance à parfois penser à ça, ouais. Je trouve que c'est assez chouette parfois de retrouver dans le caractère, la personnalité d'un animal, de se retrouver soi-même ou quelqu'un qu'on connaîtrait, enfin voilà, dans leur caractère, ouais.
Est-ce que vous avez eu des animaux qui sont décédés ?
Oui, j'en ai eu, oui. Il y a eu la plus importante pour moi, ça a été Lula, une chienne que j'ai eue pendant 15 ans.
Et comment est-ce qu'elle est décédée ?
Elle est décédée naturellement, parce qu'elle était vieille et son cœur s'est arrêté pendant la nuit. Voilà, j'ai retrouvé un matin, elle était couchée là où je l'avais laissée le soir même.
Et vous avez fait quelque chose de spécial quand elle est morte ?
On l'a enterrée dans le jardin, ouais, dans notre maison. Pareil, on l'a enterrée, ouais. On voulait la garder, quoi, un petit peu.
Est-ce que pour vous, ça signifie quelque chose, la mort ?
La mort, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un arrêt de la présence au quotidien de la personne, mais après, la personne, elle existe toujours dans le souvenir qu'on en garde et dans la façon qu'on a d'y penser. Au quotidien.
Est-ce que vous avez peur de la mort ?
Une grande question. J'ai pas peur de ma mort à moi, mais j'ai peur de la mort plutôt des autres. Moi, mourir, c'est... Voilà, je pense qu'on s'en aperçoit pas forcément et on peut s'y préparer parfois quand on sait que ça va arriver. Et de toute façon, on sait tous que ça va arriver. Après, la mort des autres, c'est très différent, je trouve. Et ça me fait beaucoup plus peur que ma propre mort.
Merci d'avoir répondu aux questions.
Alors voilà pour cette deuxième partie du micro-trottoir. Léandre, pendant que t'écoutais, tu réagissais aux personnes qui ont enterré leurs animaux dans le jardin. Qu'est-ce que tu te disais ?
Bah, moi aussi je l'ai fait, mais... Alors déjà, j'ai enterré des poissons rouges dans mon jardin. Après, mon frère, il y en a un qui l'a déterré, il l'a jeté dans les toilettes. Ensuite, j'ai enterré mon chien avec sa urne. Et après, il y a un grand sapin qui a poussé. Et j'ai enterré mon moineau, mon hamster, mon cochon d'Inde, mon lapin, mes poules, mes perroquets, et voilà.
Il y a du monde dans ton jardin.
Oui, mais ils sont décomposés. Maintenant, en fait, ils étaient non-binaires, ils se sentaient arbres. Et du coup, maintenant, c'est des arbres.
Maintenant, c'est des arbres. C'est important pour vous d'avoir comme une tombe, un endroit pour aller voir les gens ou les animaux qui sont morts. Vous pensez que c'est important ? Zélie, tu voulais réagir ? Non ? Sybille ?
Oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, à chaque fois que j'enterrais mes animaux, le truc, c'est qu'en fait, il n'y avait rien pour marquer la tombe, tu vois. En général, je mettais un bâton, mais ça ne tenait pas, du coup. J'allais voir au fond du jardin, mais c'était pas... je savais pas où vraiment c'était.
Il manquait peut-être une pierre tombale comme on fait dans les cimetières, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais.
Je pouvais pas savoir exactement où.
Et parce que peut-être on n'en construit pas des spéciales pour les animaux, tu penses ? Ou toi t'aurais pu en faire une peut-être ?
J'aurais pu en faire une, je pense. Mais ouais. C'est pas.
Mais toi t'avais cet élan, t'avais envie d'aller voir, d'aller te recueillir sur la tombe de ton animal au fond du jardin ?
C'est ça.
Ouais, ok. Les autres, vous avez envie de réagir à ça ? Zélie ?
Non, pas spécialement, à part que des premiers enregistrements, c'était mon papy qui parlait. C'était bizarre d'interroger mon papy sur ce genre de choses.
Mais ça, c'était bien de faire ça, dans Saint-Jean ?
Oui, c'était très drôle d'aller voir les gens comme ça, sachant que de base, j'aime pas trop parler aux gens.
Ah oui, avec le micro, on a une bonne raison d'aller les voir.
Moi, ça me faisait juste penser, Sybille, quand tu parlais du coup de faire une pierre tombale, etc. Ben, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était pas longtemps après la Japan Touch aussi. Il y a un âne, alors c'était même pas le mien au final, mais c'est un âne qui est à côté de chez moi, donc je vais le nourrir, etc. Qui est décédé un peu tragiquement. Et au final, ça a été très dur pour nous. Et du coup, on s'est dit qu'on allait, tu vois, essayer de lui faire une petite sculpture en bois. On voulait faire un âne sculpté en bois et puis le mettre face à la montagne et dans son champ, quoi. Pour qu'il regarde la montagne et puis qu'il continue à la regarder, voilà. Mais comme quoi, on peut même être triste pour des animaux qui sont pas les nôtres.
Et on peut faire des stèles, des tombes qui sont aménagées, parce que c'est surtout pour nous, les vivants, qu'il y a ces tombes. C'est plus pour les morts, quoi, mais de faire ce dont on a besoin. Et si on a besoin de faire un âne sculpté ou toute autre chose qui nous fait du bien, eh ben, peut-être on peut le faire.
Je pense que ce qui compte, c'est l'aspect symbolique de la chose.
Pour continuer, on va faire une deuxième chronique culturelle. Là, c'est Isia qui nous a fait un enregistrement, parce qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui parle de la mort dans d'autres cultures. Et puis après, bah, voilà, on va continuer à dérouler un peu ce fil-là.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isia Legendre-Nézanto, une élève de 4e B au collège Benjamin Malossane. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette chronique pour que je vous parle de la mort dans différentes cultures. Comme vous le savez, en France, la personne décédée est enterrée dans le cimetière choisi, dans un endroit qu'on appelle une concession funéraire. S'il n'y en a pas, le défunt est enterré, incinéré, gratuitement, dans un emplacement individuel choisi par la commune. La tombe est créée en fonction des souhaits du défunt ou de ses proches et surtout dans le respect des règles du cimetière. En France, le noir définit la mort et le deuil. Cela change en fonction du pays et des coutumes. La mort est représentée comme triste, mais cela varie aussi. El Día de los Muertos, par exemple, se déroule entre le 31 octobre et le 1er novembre au Mexique. Le jour des morts est une célébration et un rituel qui privilégie les souvenirs du défunt à l'oubli. Les hôtels des défunts sont décorés de fond en comble par diverses décorations colorées, ainsi que les plats préférés de la personne décédée. Au Mexique, la mort n'est pas vue comme triste, mais comme la continuité de la vie. L'orange éclatant représente le deuil au Mexique, car les fleurs de compasuchil, également appelées œillets d'Inde, sont utilisées pour décorer les hôtels et guider les âmes des défunts avec leurs couleurs et leurs parfums intenses. Voilà. C'était tout pour cette chronique. À bientôt dans Radio Arroyant.
Eh ben merci Isia pour cette chronique sur les couleurs, notamment finalement entre le noir, le rouge. Toi Maëlle, t'avais envie de compléter ce que Isia nous a raconté?
Oui, parce qu'on en avait discuté donc mercredi dernier quand elle a écrit ça. Et ça me faisait penser aussi, donc en parlant de d'autres cultures qui ont d'autres visions de la mort. Moi, j'étais partie à Madagascar quand j'avais 11 ans, donc quand j'étais pas loin de vos âges, et j'avais vu une célébration qui s'appelle le retournement des morts. Et en fait, alors de ce que j'en ai vu, en tout cas, ils déterrent leurs morts et ils les retournent. Et ils font tous la fête autour. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le cimetière, il y a genre plein de gens qui chantent, qui dansent dans le cimetière et qui sont autour d'un cadavre quand même qui est pas en super état. Et voilà. Et du coup, quand t'as 11 ans, moi ça m'avait estomaqué. Et bon, maintenant avec le recul que je peux en avoir, je me dis que c'est quand même assez incroyable de faire ça, quoi.
Et est-ce qu'on sait pourquoi? Enfin, t'as compris ou t'as expliqué pourquoi?
Alors, je pense qu'il y a tout un truc que là, bah, ils sont pas vraiment morts, qu'il y a quelque chose, voilà, vous voyez, il y a une suite, quoi, comme on a pu en parler pendant El Día de los Muertos, il y a quelque chose après. Mais voilà. Et du coup, je trouvais ça, en fait, super beau de pouvoir faire la fête et d'être tous, en fait, joyeux de ça, quoi. Alors que c'est vrai que, en comparaison à ce que nous, on vit chez nous, voilà, pour ceux qui sont déjà allés à un enterrement, c'est pas très très joyeux, quoi.
D'ailleurs, on dit faire une tête d'enterrement.
Voilà.
Les autres, est-ce que vous avez déjà vécu ou vu, je sais pas, dans des films, d'autres manières de célébrer la mort que nous en France? Ça vous dit quelque chose?
Oui, j'ai vu dans un film d'horreur, c'était un groupe de gens, ils ont perdu leur grand-père. Ils ont attendu 3 mois, ils l'ont déterré, ils l'ont décapité encore une fois et ils l'ont inséré dans les murs de leur maison et ils ont écrit « Paix à ton âme » avec son sang.
On peut se dire que c'est une coutume, je ne sais pas propre à quelle culture, mais en tout cas dans un film d'horreur.
Voilà, c'était bien flippant.
Bien flippant, toi ça t'a fait peur?
Bah moi j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur, alors du coup pas pour moi, mais après pour ma mère, je pense un petit peu, elle a un peu peur, un petit peu.
En tout cas, on peut se dire que quand on voit comment c'est célébré ici, faut se rappeler que voilà, c'est chez nous et qu'il y a plein d'autres religions, plein d'autres cultures, plein d'autres parties dans le monde où on fait autrement autour de la mort. T'avais envie de nous parler aussi d'un film, il me semble, Maëlle.
Eh ben, quitte à parler de El Día de los Muertos, autant parler de Coco. Voilà, moi c'est mon petit coup de cœur dessin animé, parce que oui, j'ai 27 ans et je regardais des dessins animés, tout à fait. et je trouve que c'est un super dessin animé, notamment pour des publics jeunes ou adolescents, pour parler de ce sujet-là, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de dessins animés où ça en parle aussi bien, je trouve. Et puis ça explique vraiment bien cette culture, donc ce dont a parlé Isia après, mais de l'ofrenda, voilà, de ce passage dans un autre monde. Mais en fait, tant que les gens pensent à nous, tant qu'on n'est pas oublié totalement du reste des vivants, bah on reste dans le monde des morts et du coup on continue à exister à travers ça. Et en fait, c'est à partir du moment où les gens nous oublient qu'on n'existe plus du tout. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez fort et d'assez beau, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on continue à perdurer à travers les relations qu'on a pu avoir avec les gens, à travers ce qu'on a pu offrir, à travers nos familles, à travers tout ça. Et voilà. Donc, je conseille fortement aux gens de regarder ça et en famille. En tout cas, voilà. C'est un super dessin animé et ça parle de plein de choses sur ce sujet-là, quoi.
Est-ce que vous l'avez vu, Coco, vous tous? Ouais, c'était Sybille, non, Sybille, ouais.
Si, moi je l'ai vu, mais enfin, je sais pas. Pour moi, il y a tout le monde qui le connaît, donc.
Tout le monde le connaît?
Pour moi, en tout cas, je sais pas.
Ouais. Tu te rappelles ce que ça t'a fait quand tu l'as vu? Est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais, cette coutume?
Oui, mais en fait, c'est un peu triste le film, mais en même temps, c'est joyeux. Du coup, c'est un peu bizarre l'émotion que tu ressens quand tu le regardes.
Ça fait un mélange des deux, comme ça?
La question, c'est est-ce que vous avez pleuré à la chanson de fin?
Bah, je sais plus parce que ça fait longtemps, mais voilà. Peut-être.
Zélie?
Moi, j'ai pleuré. Directement, j'ai pleuré. À chaque fois que je la réécoute, je pleure à chaque fois. Vraiment, l'ambiance, elle me donne envie de pleurer à chaque fois.
Et t'es d'accord avec ce que dit Sybille sur ce truc de mélange? Tu ris parce qu'il y a quand même des. Ben voilà, c'est fait en dessin animé et tout ça, mais à la fois, il y a des émotions aussi de tristesse. Ce mélange-là, t'as ressenti ça aussi?
Ouais. Parce qu'en fait, c'est un dessin animé avec plein de couleurs, plein de personnages différents, et pourtant, le sujet, il est un peu triste quand même. Ça parle... je sais pas comment expliquer, mais c'est quand même triste, quoi.
Léandre, t'as aussi hoché la tête, toi aussi t'as pleuré à cette chanson, c'est ça?
J'ai pleuré cette fois, parce que j'ai regardé cette fois.
Ah bah voilà.
Moi j'ai bien pleuré, parce que c'était trop bien.
Ouais.
Tous les films qui sont tristes, je pleure.
Et toi, Maxime, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu, mais pas pleuré.
T'as pas pleuré à la chanson de fin?
Non.
Qu'est-ce que t'en as pensé de ce dessin animé, toi?
Bah, je trouve qu'il est bien, ça explique bien la mort, mais en même temps, pas trop trash, on va dire. Mm-hmm. Et j'aime bien l'histoire, comme disait Maëlle, sur les cultures, les machins, tout ça, qui explique bien.
Que du coup, on reste vivant, et tant qu'on est en lien avec les autres et qu'il y a de l'amour, et ben, on reste dans le monde des morts. Et vous aviez envie de parler de manga, il me semble. Alors, je sais plus qui c'était Sybille.
C'était moi, mais je crois que Léandre aussi a envie de parler. Mais
Eh ben, vous allez le faire à deux voix, ça va être super. De quoi t'as envie de parler, Sybille, alors?
Ben, en fait, c'est un manga, il s'appelle Oshinoko. En fait, moi, j'ai bien aimé parce que déjà, en fait, c'est comme un peu... Enfin, c'est un peu joyeux, mais c'est... Enfin, certains moments, mais en fait, ça part... Dès le début, ça part de mort et de réincarnation. Mais en même temps, tu vois, c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est pas trop le sujet... Enfin...
C'est pas le sujet principal, mais
si,
ça apparaît.
Mais en même temps, je sais pas trop comment expliquer. Même le thème, c'est justement, c'est les idoles, le cinéma, la musique, mais aussi la réincarnation. C'est.
Du coup, ça veut dire, il y a des personnages. Donc, c'est un manga qui est japonais.
Ouais.
Et du coup, il y a des personnages et ils sont réincarnés, c'est ça?
Bah, c'est pas tous, mais en fait, ça explique l'histoire d'une chanteuse de K-pop. En fait, elle va dans un hôpital parce qu'elle est enceinte, elle va dans un hôpital pour accoucher, mais personne ne la soit voir. Du coup, en fait, le docteur qui l'a fait accoucher, c'est un fan de. Et en fait, quand il était plus jeune, il avait une patiente qui est morte, qui était assez jeune, elle était morte d'une maladie. Et en fait, le docteur Goro, justement, il se fait assassiner par quelqu'un. Et il se réincarne dans les enfants de cette chanteuse. Aïe aussi.
Et qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce manga? Pourquoi est-ce que ça t'a parlé particulièrement?
Bah, je sais pas, mais... Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais... En général, j'aime les trucs, je sais pas trop pourquoi.
En tout cas, ça t'a plu, quoi.
Oui. Et après, justement, bah, en fait, les deux, ils se souviennent, mais ils savent pas. Normalement, ils se connaissaient dans leur vie. Mais ils le savent pas quand ils se réincarnent. Du coup, ils se souviennent de leur passé un peu. Et en fait, justement, la chanteuse, leur mère, bah, elle se fait assassiner par un de ses fans. Et après, du coup, ses enfants, il y a Ruby et Aquamarine.
T'inquiète. C'est pas...
Et du coup, Aqua, il cherche à se venger et à tuer celui qui a tué sa mère. Voilà, c'est... Et du coup, tout le long, il devient acteur et en même temps, il cherche à se venger, à trouver des...
Voilà. Zélie, tu voulais compléter? Tu voulais dire quelque chose?
Moi, ce manga, on va dire que j'ai lu jusqu'au tome 10, sachant qu'il y a 14 tomes, j'ai beaucoup avancé, mais c'est un de mes mangas préférés, moi. J'aime bien l'histoire, il y a tout le temps des intrigues, c'est pour ça que je lis la suite, et vraiment, c'est un de mes mangas que je préfère.
C'est bien fait, quoi, on a envie de savoir.
Et même les dessins, ils sont bien faits, il y a plein de petits détails, c'est vraiment, je trouve...
Qu'est-ce que tu dis, Sybille?
Les yeux aussi, en fait, c'est par exemple justement Ayoshino là, et en fait c'est la chanteuse, elle a les yeux, même ses enfants du coup, c'est des yeux, ils sont trop beaux parce qu'en fait ils ont des étoiles à l'intérieur, enfin c'est très spécial, c'est.
Ok.
Je sais pas trop comment expliquer.
On va le lire, peut-être que voilà, comme ça on comprendra mieux. Et toi, Léandre?
Si vous voulez, si on veut les lire, j'ai les deux premiers tomes dans mon sac. Moi j'aime bien parce que ça raconte un peu une histoire d'une maman qui a des jumeaux et que pour pas que ça botte sa carrière et pour pas que ses enfants sachent qu'elle est enceinte de jumeaux, qu'elle garde le secret. Et par contre, j'ai eu le seum parce que il y a une copine à moi, elle m'a spoilé. J'étais en train de lire le premier tome, elle me dit qu'à la fin du tome, il y a la maman qui allait mourir.
Donc là, tu viens de spoiler pour tous les gens qui écoutent l'émission.
Ah bah non, j'avais déjà spoilé. Hein, mais c'est pas grave. Et du coup, j'aime bien aussi parce que ça raconte l'histoire des gens qui se sont fait assassiner, qui se réincarnent pour trouver celui qui a assassiné leur mère.
Ouais.
Et j'aime bien parce qu'il y a du suspense. Et en plus, même les livres, même la série, c'est beau, il y a beaucoup de couleurs, c'est joyeux. Et en même temps, c'est quand même triste.
Donc c'est peut-être un peu comme dans Coco, où il y a à la fois ces couleurs, cette ambiance, et ça parle quand même de réincarnation. Maxime, tu l'as lu, toi?
Non, moi je lis pas trop les livres comme ça. Enfin, que certains.
Les mangas, tu veux dire?
Oui, voilà.
Ok. Est-ce que c'est courant dans les mangas japonais qu'il y ait des histoires de mort et de réincarnation?
Ça dépend. Ça dépend si c'est des shonen ou des shoujo.
Des quoi, vas-y?
Les shonen ou des shoujo, parce qu'en fait, c'est... C'est compliqué. Les shonen, c'est plus, ça veut dire en japonais, ça veut dire pour les filles, je crois, et les shoujo pour les garçons.
Ah oui.
C'est plus des trucs.
Il faut une différence dans le type de manga, c'est ça?
Oui, mais en général, par exemple, c'est un shonen Oshinoko, mais en même temps, normalement, ça parle genre. Mais là, du coup, ça parle de réincarnation, donc c'est pas tout à fait le même.
Léandre, tu voulais compléter?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de. C'est pour les garçons ou pour les filles, tout le monde peut aimer. Parce que c'est quand même. Ça peut être adapté à tout le monde. Voilà.
Moi aussi je suis d'accord, mais moi j'ai lu plus de shonen que de. Merde, je sais plus. j'ai tout mélangé.
De shonen que de shoujo.
En plus, on pourra pas t'aider parce que franchement.
Alors moi je découvre, mais c'est bien, grâce à vous je viens d'apprendre quelque chose.
J'ai un peu mélangé, je crois. Je crois que c'est l'inverse.
Bon, on ira vérifier. Attends. Pendant qu'on va s'écouter une petite musique, après cette chronique culture, on va écouter quelqu'un qui n'est pas tout récent. C'est toi, Zélie, qui a eu envie qu'on écoute Édith Piaf.
Oui, Édith Piaf, je l'écoute souvent, parce que même si c'est des chansons pas très récentes, ça m'arrive parfois d'écouter des chansons assez vieilles. Par exemple, la chanson que j'aimerais vous écouter aujourd'hui, c'est « La foule » d'Édith Piaf. C'est une des chansons les plus connues d'Edith Piaf, même si on avait énormément. Elle, c'est une demi-chouchou.
Edith Piaf, chouchou de Zélie. Léon, tu voulais dire un truc sur la foule aussi, tu disais.
Alors, moi, en anglais, on devait faire un exposé pour décrire la vie du personnage et comment elle est morte, ce qu'elle aimait de ce goût. On devait faire une biographie. Moi, j'ai choisi Edith Piaf parce que j'avais écouté une de ses chansons.
J'avais écouté une de ses chansons et bah, j'ai bien aimé, je crois que c'était La vie en rose.
Et alors, comment elle est morte, Edith Piaf?
Je crois, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai fait l'exposé, je ne me souviens plus beaucoup.
Encore quelque chose à chercher.
Mon cerveau, il est un peu loin d'être détente des fois, du coup.
Enfin, c'est la fin du film La môme Piaf, donc
c'est ça.
Est-ce qu'on vous spoil?
Après, moi, elle n'avait pas une histoire triste, genre elle était amoureuse d'un boxeur où ma mère, elle m'avait raconté un jour un peu l'histoire d'Edith Piaf.
Ouais, ça, je m'en rappelle.
Elle a eu une vie assez triste. Bah, du coup, le fameux film, qui est peut-être pas trop de vos âges d'ailleurs.
La môme, ouais.
Et du coup, en gros, elle a grandi dans une maison close avec des prostituées parce que son père était à la rue. Et puis après, elle a un peu passé de maison en maison. Elle est dans la rue. Ouais, elle a vécu vraiment des sales trucs. Et après, bah, elle a commencé à faire de la chanson dans la rue. Puis elle a commencé à être connue, etc. Et après, donc, elle est tombée amoureuse de ce boxeur. Et ce boxeur est mort dans un accident d'avion, je crois, pendant un de ses transports. Et là, ben, ça a été super dur pour elle, parce que c'était la mort de sa vie. Et du coup, elle a commencé à tomber dans la drogue, à tomber dans plein de dérives. Et en gros, elle est morte un peu, je pense, à cause de ça. Enfin,
de tristesse, on pourrait dire, quoi.
Bah ouais, de tristesse. Et puis, ouais, ses derniers concerts, c'était très compliqué. Voilà, elle voulait absolument monter sur scène, mais en même temps, elle était d'une tristesse folle. Voilà. Et après, je sais plus la mort exacte, comment ça finit, mais c'est dur.
Allez, on s'écoute La foule d'Edith Piaf, un choix de Zélie.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Alors la question aujourd'hui, c'était de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort ou qu'il y a quelque chose après la mort?
Bah moi, je m'imagine souvent des fois qu'il y a un enfer ou un paradis et qu'il y a des gens qui vivent dedans, quoi.
Ok, ok. Et t'imagines que c'est où cet endroit?
Dans le ciel.
Dans le
je sais
ciel.
Pas pourquoi.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort?
Pareil que ma camarade, avant.
Bah, qu'il y a quelque chose. Enfin, qu'il y a une vie en dehors.
Une vie en dehors? Et tu penses que c'est où, toi?
Sous terre.
Est-ce que vous croyez à quelque chose après la mort?
Non, moi je pense qu'après la mort, bah, c'est comme quand on dort. Et bah, on fait rien et je pense qu'il n'y a rien après la mort.
Est-ce que vous avez peur de la mort?
Non, je n'ai pas peur de la mort.
Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui sont décédés?
Ouais, mon oncle il est mort l'année dernière.
Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Bah, j'étais triste. Et après, bah, avec le temps, ça passe. On s'habitue.
Et du coup, est-ce que vous avez eu des animaux de compagnie?
Oui, bien sûr. J'ai eu, comme beaucoup de gens, un chien qu'on a gardé quasiment 19 ans. Donc, il faisait partie de la famille. C'était quelque chose de très fort, la relation avec des animaux. Mais quand ils viennent à partir, bah, c'est également très douloureux. Donc... Depuis, j'en ai pas repris.
Maintenant, voilà. Il a des tortues.
Ouais. C'est vrai. J'ai 3 tortues à la maison.
Ça vit plus longtemps.
Je sais pas. Donc là, ça fait 3 ans qu'on les a. Mais oui, effectivement, ça a une durée de vie assez longue. Ouais. Ouais.
Quand on est attaché à un animal, il est certain que quand il part, ça fait de la peine. Tout à fait.
Est-ce voilà, que vous avez fait un rituel particulier, un enterrement pour votre chien?
Non, parce que j'en ai pas eu la force. Donc je l'ai fait prendre en charge par... en plus de ça, maintenant, on n'a plus le droit d'enterrer les animaux donc chez soi. Je l'ai fait prendre en charge par le vétérinaire, tout simplement. Mais ça a été très dur. Voilà, j'ai eu un chien pendant une quinzaine d'années à peu près. Et effectivement, je suis mon cousin. C'est très dur quand on perd son animal.
Oh ben... Quelque chose de très classique, on l'a emmené chez le vétérinaire qui l'a... brûlé en fait et on a gardé les cendres. Voilà. On a toujours les cendres. Voilà.
Merci.
Merci.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort?
Après la mort, non, pas forcément. Je suis pas forcément très croyant. Je pense que bah, le cycle de la vie s'arrête et qu'on repart dans la nature. On devient du nutriment pour la terre et notre âme s'envole et c'est fini quoi. Je pense que ça s'arrête là.
Pour toi, qu'est-ce que ça signifie la mort?
On meurt? Personne ne nous connaît.
Ouais, voilà, plus personne ne nous connaît. On est mort. Voilà. Notre âme est morte.
Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort?
Oui.
Genre quoi?
On devient une autre personne. Enfin, pas une autre personne, mais une nouvelle personne. Ou un autre être humain. Un autre être vivant.
Est-ce que t'as déjà eu des animaux qui sont décédés?
Oui. Alors, c'était un lapin, il s'appelait Gloops, voilà. Il était marron avec blanc, voilà. C'était un petit lapin géant des Flandres. Et on l'a retrouvé sa queue. On n'a pas retrouvé le lapin, on a retrouvé sa queue avec du sang. En fait, il s'est fait manger par le renard avec le reste des poules. Du coup, c'était mon lapin que j'adorais et tout. On faisait des tours de magie, voilà, carrément. Et... voilà quoi. C'était mon lapin quand même. Je l'aimais bien moi, ton pauvre petit lapin. Voilà.
Voilà pour cette 3e partie de micro-trottoir. Décidément, il y a pas mal de prises de parole autour des animaux. J'ai l'impression que les gens ont beaucoup d'animaux quand même. Hein. Et il me semble que vous avez reconnu des camarades à vous, c'est ça? Ça vous a fait rire un peu pendant le micro-trottoir, pendant l'écoute?
Oui. C'était des gens de notre âge, pas forcément dans notre classe, mais qui ont notre âge, qui ont été dans la même primaire que nous. Du coup, c'était drôle de les interroger.
Et ouais.
C'était des gens de notre classe, nos classes de notre, en cinquième. Enfin, voilà, du coup, on les connaissait. C'était marrant parce que moi, par exemple, j'étais pas là, donc ça m'a fait marquer encore plus.
Bah oui, de découvrir les voix à la radio. Pour continuer cette émission, on va écouter aussi l'interview de Maxime qui a fait un stage au funérarium. Mais avant d'écouter ça, il y avait toi, Maëlle, qui a écrit un texte et que tu avais envie de nous partager.
Ouais, je m'étais engagée sur un texte. Du coup, j'ai écrit un texte. voilà. Après, j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop dur. Mais je trouve que c'est pas si facile, en fait, sur ce sujet. Donc, voilà. Mais je vous le lis quand même.
Allez, on t'écoute.
Avons-nous peur de disparaître? ou ne sommes-nous juste pas préparés à cela? La mort n'est-elle pas la suite logique de la vie? Serons-nous quelque part après ça, ou ne restera-t-il rien de nous? Peut-on continuer à vivre à travers nos actes passés, à travers ce qu'on a pu offrir aux autres, à travers l'éducation que nous avons donnée à nos enfants? Nous avons si peu de réponses et tant de questions. Une chose est sûre, nous sommes tous égaux face à cette réalité. Nous avons tous perdu quelqu'un, un être cher, un animal, des personnes qu'on a bien connues et d'autres qu'on a juste croisées. Un animal qui a grandi avec nous ou qui venait juste d'arriver à nos côtés. Nous en avons tous un peu peur à un moment ou à un autre. Mais peut-être que cela nous rappelle aussi que chaque jour doit être vécu avec intensité. Alors soyons vivants, créatifs, déterminés, humains, engagés et acceptons qu'aucune route n'est interminable.
Waouh !
Voilà.
Merci Maëlle. Ça te fait réagir, Sybille ? Tu voulais dire un truc ?
Bravo, je dis bravo.
Bravo. C'est ça que t'as envie de dire ?
Bravo, c'est ça.
Donc, soyons vivants jusqu'à la mort, finalement.
C'est ça. En fait, j'avais un texte que j'avais écrit il y a quelques temps. Je l'ai relu ce matin et je me suis dit que c'était un peu trop dur. Mais je venais d'apprendre la mort de quelqu'un, donc c'est pour ça que c'était un peu plus... Voilà, et je l'ai refait avec mon nouvel œil d'aujourd'hui.
On peut en écrire tous les jours, on sera à chaque fois dans un état différent. Merci pour ce partage poétique, Maëlle. Et on continue par cette interview de Maxime et son stage au funérarium et par la dernière piste du micro-trottoir. Alors toi, Maxime, tu es en classe de terminale, tu viens de passer ton bac.
Ouais.
Et si on se voit aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un stage qui n'est pas banal dans le cadre des stages. C'est que tu vas nous raconter, tu as été en stage chez des pompes funèbres.
Voilà. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans et j'ai récemment effectué un stage dans une entreprise de pompes funèbres. Alors c'est un domaine qui peut surprendre parfois, même mettre mal à l'aise, mais pour moi c'est tout le contraire, je m'y suis sentie à ma place. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est pas seulement l'aspect technique ou logistique autour de la mort, mais c'est surtout l'accompagnement humain, être là pour les familles dans un moment aussi fragile, aussi chargé d'émotions. C'est une forme de présence, presque de mission, on va dire. On aide les gens à traverser un moment douloureux, à faire leurs adieux, à trouver un peu la paix. Et la mort, pour moi, c'est pas un sujet tabou, c'est une réalité universelle. Inévitable, mais qui peut être vécu autrement selon l'écoute, le respect, le soutien qu'on apporte. Travailler dans les pompes funèbres, c'est aussi redonner un peu de dignité à ces instants, permettre aux proches de dire au revoir dans les meilleures conditions possibles. C'est un métier qu'on choisit pas par hasard, forcément. Il demande de la sensibilité, du calme, beaucoup de respect, mais aussi une certaine force pour travailler dans ce domaine-là. Et moi, j'ai envie de mettre ça au service des autres. Voilà.
Alors, c'était où ce stage ?
C'était à Dumoulin, au groupe Dumoulin, à Romans-sur-Isère.
Et pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on fait quand on est aux pompes funèbres ? J'imagine qu'il y a plusieurs rôles. Toi, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire ?
Eh bien, moi, j'ai pu toucher à tout. Donc, dans les pompes funèbres, il y a plusieurs domaines, on va dire. Il y a le côté administratif. Donc, là où il y a les papiers, les devis qui sont signés, tout ça. Après, on a plus le côté... Il y a le laboratoire, donc quand le thanatopracteur, celui qui fait des soins au corps, et pour préparer les corps et les mettre dans les chambres funéraires, dans les salons. Et puis ensuite, il y a les côtés là-bas, du moulin, il y a une salle de cérémonie, on peut faire des cérémonies là-bas. Donc il y a plusieurs domaines, ça serait super long à expliquer, mais voilà. Et moi, du coup, j'ai pu, durant ce stage, je l'ai fait pendant 2 semaines, j'ai pu... assister à des enterrements, donc voir comment ça se passait, tout ça. J'ai pu voir aussi l'accompagnement, en effet, avec les familles, donc quand ils viennent se recueillir, faire part d'un décès et tout ça. J'ai pu aller à la mairie aussi pour faire signer les actes de décès. Donc il y a un côté démarche administrative derrière qui continue aussi. Et j'ai pu être aussi avec le thanatopracteur, voir les soins qu'il prodiguait au corps et voilà.
Et qu'est-ce que ça t'a fait de suivre le thanatopracteur, d'être vraiment proche de personnes mortes ?
Eh ben, ça m'a pas. Enfin, en fait, dans ce domaine, c'est soit t'as assez de force mentale, soit t'en as pas. Mais du coup, moi, ça m'a rien fait spécialement. Enfin, sur le moment, on est là quand même. Forcément, on reste humain. Voir une personne décédée comme ça en face de nos yeux, pas forcément dans un bon état, forcément, ça surprend.
Mais après, je m'y intéresse et voilà, c'est plus côté je m'intéresse, voir les manips qu'il fait, tout ça. Et puis j'ai pu aussi à côté aller chercher des, faire des transports, donc aller chercher des corps dans les chambres mortuaires, à l'hôpital ou à l'EHPAD, tout ça. Donc j'ai fait des transports aussi.
Et le thanatopracteur, qu'est-ce qu'il fait concrètement avec le corps ?
Eh ben, le thanatopracteur, il va faire des soins au corps. Donc, c'est-à-dire, il va un peu le vider de son sang, tout ça. Donc, il va mettre tous les produits nécessaires. Je vais pas rentrer dans les détails, mais après, il va remettre bien. En fait, il remet le corps correctement, le mieux possible, on va dire. Et ensuite, il y a la partie maquillage où il le rend un peu mieux, voilà, physiquement. Et après, il y a la partie habillage où on remet le corps normalement. Mais voilà, c'est vraiment des soins vraiment bien spécifiques faits au corps pour qu'il soit rendu dans le meilleur état possible et dans les meilleures conditions de ce que la personne était avant sa mort. Voilà.
Et pour la cérémonie auprès des proches, est-ce que les gens ils ont le choix ou est-ce que c'est vous qui choisissez comment ça se passe ?
Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, les personnes, elles sont là, elles ont le choix. En fait, c'est déjà selon les religions, tout ça, les personnes, elles peuvent choisir. Enfin, voilà, selon la religion de la personne. Ensuite, tout ce qui est musique, il y a des musiques souvent, il y a des... On peut avoir un prêtre aussi qui peut venir. Enfin, voilà, c'est vraiment selon les personnes, celles qui choisissent et qui veulent... Et puis voir les pompes funèbres, elles, ce qu'elles peuvent faire ou non. Et on aide un maximum les familles à rendre ce dernier au revoir le mieux possible, en fait, tout simplement.
Et toi, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris ou choqué ou dérangé pendant ce stage ?
Eh ben, j'étais plus surprise avec le thanatopracteur, donc voir les soins qu'il faisait au corps, parce que j'imaginais pas, enfin, je m'étais un peu renseignée tout ça, mais j'avais pas eu la même vision des choses. Mais après, sinon, ça m'a pas. Enfin, ce stage m'a énormément plu. Enfin, j'ai pas eu vraiment de choc ou de choses qui m'ont marqué. Mais voilà, j'ai pas forcément eu quelque chose qui m'a marqué plus que ça, en fait.
Et le contact avec les familles, tu te sens à l'aise au contact de leur tristesse, peut-être ?
Alors, oui, c'est un peu compliqué des fois, forcément. Mais on prend sur nous et puis. On les aide au mieux, enfin, on est plus dans ce sens-là. J'accompagnais bien les familles avec les autres, enfin, avec mes collègues. Et voilà. Mais au début, c'était un peu compliqué niveau émotion, tout ça. Mais après, ça va, enfin, au bout de 5 minutes, j'ai vite pris sur moi et voilà.
Toi, tu te destines à faire ce travail-là. C'est quoi la formation, du coup, pour travailler en pompe funèbre ?
Eh ben, en pompe funèbre, on peut avoir plusieurs parties, on va dire. Moi, j'aimerais bien faire une formation conseiller funéraire ou maître de cérémonie. Voilà.
Oui, pourquoi tu t'es orientée vers ce type de stage et du coup cette filière maintenant qui t'attend ?
Eh ben, alors, au début, c'était pas du tout dans ça que je voulais me lancer. Alors, je voulais partir en gendarmerie, donc rien à voir. Et donc, après, là, je suis en train de passer mon dossier pour être réserviste en gendarmerie. Mais à côté, en fait, je voulais faire une fac de droit. Donc, faire un master droit pénal et sciences criminelles. Donc, plus être du côté criminologie, médecin légiste, tout ça, dans le criminel. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, là, pendant ce... En fait, je voulais faire un stage avec une approche avec la mort. Avec les morts, voir si j'en étais réellement capable, si ça me bouleversait pas ou autre. Parce que si je commençais mes années, si bien ça me plaisait pas et... Je suis à fond dedans et voilà, enfin, j'avais pas le choix de continuer. Mais là, du coup, c'était plus me lancer dedans et voir si ça me convenait. Et finalement, ça me convient et c'est un domaine qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse. C'est plutôt de la curiosité et à côté, forcément, l'accompagnement avec les familles, tout ça dans leur deuil. Mais voilà, ça m'est venu comme ça. Mais ça fait depuis au moins 5-6 ans à peu près. Que j'aime bien que je m'y intéresse en tout cas. Je prenais le même. J'ai souvent lu des livres avec Philippe Boxeau par rapport au médecin légiste. C'est un médecin légiste et du coup j'ai pu voir en fait c'est des histoires qu'il raconte un peu différemment et c'est plus agréable quoi. Mmh. Voilà.
Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire ou donner comme conseil à des jeunes qui hésiteraient à faire ce type de stage ou à prendre ce genre de filière ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ?
Et si vous y intéressez, foncez, parce que en fait dans ce domaine c'est soit il t'intéresse et que tu y arrives ou soit il t'intéresse pas, tu voilà, t'es pas attiré tout simplement. Et si vous avez l'opportunité de pouvoir faire un stage dans des pompes funèbres, faites-le parce que franchement c'est incroyable. Vraiment, si ça, c'est un domaine qui vous plaît, vous allez vraiment vous épanouir et connaître davantage plus d'autres choses, découvrir d'autres choses. Enfin, c'est vraiment un domaine qui est très très vaste et on découvre vraiment plein d'autres choses. Et voilà, franchement, foncez et n'hésitez pas.
Hein. Merci Maxime.
Bah, merci beaucoup, bonne journée.
Est-ce que vous croyez à la vie après la mort?
Ouais. Ah, pour moi, je vais changer de corps et je vais devenir une autre personne.
Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont morts?
Oui. Bah, y avait ma tante, ma mémé. J'étais triste. Bah, après, pas plus que ça, mais c'est pas comme si c'était mes parents, mais quand même.
Et du coup, vu que okay. Tu disais que tu croyais à la vie après la mort, est-ce que tu penses que ces personnes-là, donc, qui se sont mis dans d'autres...
Ils sont devenus une autre personne, soit par exemple ils peuvent devenir un nouveau lapin ou ils sont devenus une autre personne. Par exemple, ma mémé, elle est peut-être devenue un bébé, un garçon.
T'as déjà vu Vaiana, le dessin animé? Est-ce que tu vois la grand-mère quand elle décède et qui devient une raie colorée? C'est dans cette idée-là du coup?
Pas de l'eau, mais un être humain quoi.
Tu crois aux vies antérieures aussi? Antérieures, ça veut dire les vies qu'on a eues avant.
Oui, je crois.
En gros, il y a des gens qui disent qu'ils ont déjà eu des vies avant celles qu'ils ont déjà.
Oui, bah moi, c'est tout à fait ça.
Pour moi, ça signifie une vie qui s'étend. Une seconde vie, par exemple, ou une âme monte au ciel. Voilà.
Est-ce que vous avez eu des animaux qui sont décédés?
Alors, oui. Alors, j'ai des poules, des poissons, j'ai plein de trucs. Et voilà.
Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué?
Je crois que c'était ma poule, parce qu'en fait, on est allé l'enterrer. Et après, j'ai un voisin qui a dit « Ouais, on l'a déterré, on a pris tous les os et tout. »
C'est un peu violent, ça, hein?
Bah ouais, mais moi, ça m'a fait de la peine, quoi. Je me suis dit « Mais d'où il touche, lui ?»
Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort?
Moi, je pense que oui, parce que des fois, je m'imagine... un enfer et un paradis, ou même, pas forcément genre juste un endroit où il y a tous les morts, ou alors que tu te réincarnes et que tu te vis dans une autre vie, mais pas forcément animal, genre par exemple humaine, ouais voilà. Et du coup, ouais, j'imagine bien une vie après la mort, mais pas sûr que ça, voilà, je sais pas trop.
Est-ce que toi tu as peur de la mort ou t'y penses parfois?
Alors oui, j'y pense vraiment souvent parce que je me dis quand mes parents ils seront morts ou je sais pas quoi, mais comment je le vivrai, genre quand je serai grande, moi quand je mourrai, qu'est-ce qui se passera, voilà. Ouais.
C'est difficile hein, aborder ce sujet.
Ouais, c'est vrai qu'on parle pas souvent de ça avec n'importe qui, voilà.
Qu'est-ce que tu penses qui se passe quand on meurt?
On meurt quoi. Enfin. On est fini quoi. Enfin,
ok, est-ce qu'il reste quelque chose de nous quelque part?
Dans le cercueil.
Oh non, moi je crois pas à des choses qui se passent après la mort. On est mort, on est mort.
on est mort, ok. Et donc pour vous, une fois que c'est fini, c'est terminé
Oui, c'est fini, bien sûr. Voilà.
Et est-ce qu'on continue à exister sous d'autres formes?
Oh, je crois pas non plus. Puisque je ne crois pas en l'au-delà, donc non, pour moi, il n'y a pas d'autre chose qu'après la vie, quoi.
Donc, il faut profiter de la vie tant qu'elle est là, c'est ça?
Profiter de la vie, oui, tandis qu'on peut le faire.
Je dirais que non, je pense. Je pense que non.
Tu penses que non, mais t'as pas l'air très sûr.
Ouais. Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose.
Est-ce que tu préfères garder un doute au cas où?
Ouais.
Parce qu'on sait jamais?
Ouais, on sait jamais. On verra bien.
On verra bien. T'en es pas là?
Ouais, non. Pas encore.
T'es encore jeune?
Ouais.
Ok. Et est-ce que du coup, t'as déjà perdu des animaux de compagnie, toi?
Ouais, pas mal.
Ok. Tu peux nous donner un exemple, par exemple? D'un qui t'a le plus touché, par exemple?
J'ai perdu un lapin. Enfin, mon père, il l'avait trouvé... Il l'a trouvé à son travail. Comme la plupart de mes animaux, d'ailleurs.
Et du coup, en fait, j'étais assez triste parce que du coup, il était... Voilà, il était beau, il était mignon.
Qu'est-ce qui lui arrive à ce lapin ?
On l'a laissé un peu trop dans le froid, on l'a mis au chaud un peu trop tard pendant l'hiver et du coup il est mort.
D'accord, et du coup toi ça t'a fait quoi de la mort de ce lapin ?
Ça m'a attristé un peu parce que je l'aimais bien, il était sympa.
Et t'as déjà perdu aussi des gens que tu connaissais ? Des gens qui sont décédés ?
Oui, j'ai déjà perdu mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Mon grand-oncle.
Voilà. Ok, et du coup, c'était des gens que tu côtoyais souvent ?
Oui, assez souvent.
Ok, ça t'a fait quoi quand t'as appris la nouvelle ?
J'étais un peu triste, forcément, et voilà. Yeah. C'est surtout de voir mes autres proches pleurer qui m'a fait encore plus de mal.
Est-ce que t'as peur, toi, de la mort ?
Non. Forcément un peu, mais franchement...
Parce que du coup, si on entend ce que tu dis qu'après la mort, il n'y a plus rien pour toi, c'est ça ?
Ouais.
Tu penses ? T'es pas sûr, mais tu penses ?
Ouais.
Et du coup, tu te dis que toi, si tu meurs et qu'après, il n'y a plus rien, c'est OK comme ça ?
Bah ouais, de toute façon, il peut rien. Hein.
Et voilà, c'est la fin de cette quatrième partie du micro-trottoir et c'est la fin de cette émission, une émission mortelle, avec les jeunes d'Active Royan et leur animatrice, Maëlle. Pour cette conclusion, moi j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que ça vous a fait de parler de la mort, que ce soit pendant le micro-trottoir ou quand on s'est vu pour préparer ou aujourd'hui? Et est-ce que vous avez envie, maintenant qu'on a un peu travaillé tout ça, de parler de la mort avec d'autres gens dans votre vie? Tu hoches la tête, Léandre, vas-y.
Non.
Non ?
Bah, moi, maintenant, j'ai moins peur de la mort.
T'as moins peur de la mort ?
Oui, parce que j'ai déjà beaucoup d'animaux qui sont morts.
Ouais.
Et du coup, je commence à avoir l'habitude.
Est-ce que c'est facile de parler de la mort avec les... Je sais pas, moi, soit avec tes camarades de classe, soit avec des profs, soit avec ta famille ?
Bah, moi, ça va. Hein. Ouais. Je suis plutôt à l'aise parce que je regarde beaucoup de films d'horreur et ils font que mourir.
Ouais.
À chaque épisode, voilà.
La mort, elle est présente effectivement dans les films, dans les jeux vidéo, dans
ils
les mangas.
Ils sont décapités.
Ouais, donc c'est présent pour toi, quoi.
Oui.
Et toi, Maxime ?
Moi, pareil que Léandre, c'est pas compliqué d'en parler. C'est voilà quoi.
C'est un sujet comme un autre qui est là.
Voilà.
Ouais. Ok.
Qui va arriver un moment ou un autre. Alors.
Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter cette émission ? T'as peut-être un peu moins pris la parole, mais d'entendre tout ce qui s'est dit là aujourd'hui ?
Je pensais qu'il y aurait plus de monde qui aurait peur de la mort.
Ah ouais ?
Parce que pratiquement tous ceux qu'on a entendus, ils étaient à l'aise avec ça, limite, et là, ça m'a un peu surpris.
Ok. Toi, Zélie ?
Moi, la mort, ça me fait pas vraiment, vraiment peur, parce que je sais que ça arrivera, mais j'ai pas envie que ça arrive tout de suite, vraiment. Et je pense pas pouvoir en parler avec mes proches. Ça serait trop bizarre. Ça créerait un malaise, peut-être. Je sais pas. Ce serait un peu bizarre.
Avec les camarades d'école ou alors avec tes parents ?
Ouais, ça serait trop bizarre. Je pourrais pas.
Ouais, ok. Donc il y a certaines personnes avec qui c'est possible. Là, par exemple, tu l'as fait dans l'espace public avec des gens que tu connaissais pas. Mais avec tes proches, ça, c'est plus compliqué.
Ouais.
Ok. Et toi ?
Moi c'est un peu pareil que Zélie, sauf qu'en fait le truc c'est que j'ai plus de mal à parler parce qu'en plus mes grands-parents, enfin les parents de ma mère, ils sont plutôt vieux, donc voilà, c'est surtout qu'il y a des gens, il y a des amis à eux qui sont morts alors qu'ils avaient le même âge qu'eux, donc voilà, c'est un peu...
Donc il y a leur mort approche.
Oui, donc je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise de parler avec mes parents ou ma famille.
Parce que t'as l'impression que tu vas leur faire du mal ou que...
Mais non, je sais pas, ça crée... c'est comme je dis, c'est que je pense que ça créerait un malaise ou un truc...
Ok. Et toi, Maëlle ?
Moi, j'aurais envie de dire que justement, c'est assez important d'en parler. Après, je comprends que c'est pas facile d'en parler avec tout le monde. Mais pour ma part, au vu des expériences vécues, en fait, des fois, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on a peur de blesser les gens. En fait, les gens, ils ont qu'une seule envie, c'est qu'on en parle. Enfin, je parle notamment de gens qui viennent de perdre des proches, des gens très proches. Et c'est vrai que quand on vient de perdre quelqu'un, les gens, ils osent pas en parler parce qu'ils savent que c'est compliqué, parce qu'il faut du temps pour s'en remettre. Et sauf qu'en fait, ça fait du bien d'en parler. Et que d'en faire quelque chose de tabou, c'est là où ça devient quelque chose de bizarre. mais c'est sûr que c'est pas facile. Et voilà. Donc moi, je pense que c'est important de casser ces tabous. Et enfin voilà. Par exemple, c'est pour ça que je trouve que le festival Mortel qui a lieu pendant ces quelques mois, c'est assez important parce que ça casse des tabous et c'est pour tous les publics aussi parce que c'est important d'en parler avec les personnes âgées, avec les ados, avec les enfants, avec tout le monde parce qu'en fait, ben ça fait partie de la vie comme on dit. Donc faut pas hésiter à parler de tout ça quoi.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci Maëlle. Merci Sybille, Zélie, Maxime et Léandre d'être venus pour cette première expérience d'émission au studio. Ça m'a fait bien plaisir de faire ça avec vous cet après-midi. Merci à Sam, à Maxime, l'autre Maxime. Isia. Merci à Isia aussi pour leur contribution. Et bien évidemment, merci à Chico, à la technique pour cet après-midi.
Et merci à Céline.
Et on se laisse avec un dernier choix musical, une dernière chanson, c'est Waiting Love de Avicii. Merci à vous tous.
Merci.
Merci.
Merci. Bye bye.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. So come around. Waiting for love.